Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
On n'avait pas resté piqué planté, ça bougeait quand même.
Oh. Jean-Christophe Drouet.
Ben oui, hommage à Maïté qui nous a quitté hier. La cuisinière préférée des Français, c'est évidemment une page de notre histoire culinaire qui se tourne.
Les pintades, la tente de paradis.
Exactement.
Les lapins et tout ça.
On pense évidemment à elle et à toute sa famille. Toujours avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Jérôme Pinot, Marc Madiot. Merci infiniment de votre fidélité. Pardonnez-moi les auditeurs. Sachez que les grandes gueules du sport ne s'arrêtent jamais durant les vacances de Noël, durant ces fêtes. Nous serons là la semaine prochaine, nous serons là début janvier. Bref, le samedi, le dimanche, de 9h à midi, les GG du sport seront sur RMC. Le week-end prochain, ce ne sera pas moi. Ah, mais les GG seront là, les copains. Voilà, début janvier, je serai là, en revanche. Pas comme toi, mon cher Christophe. Hein, il faut bien un petit peu de vacances. Hein. Ok. Sachez que si vous voulez réécouter la première heure, n'hésitez pas, c'est déjà disponible en podcast. On a parlé de l'Olympique de Marseille. Est-ce que cette Coupe de France doit être la priorité du club cette saison? Nous avons évoqué la mise au point d'Antoine Griezmann, de Fury Usyk, la victoire d'Usyk cette nuit, ou encore de la situation d'Antoine Camboire. Et dans quelques instants, le bras de fer des GG, le Stade Toulouse. Le Stade Toulousain dérange-t-il? On se posera la question. Tu vois que j'ai besoin de vacances. Tu vois, je finis l'année malade. C'est quand même.
Là, ça s'entend un peu. Là.
Ouais, ça s'entend un petit peu. 10h30, la punchline des GG.
Quand même, hein. Il y en a d'autres dans cette maison qui sont fait porter pâle pour
fait.
Une tout petit rhume.
Voilà.
Bravo,
tout à fait. Je suis d'accord là-dessus. Ouais,
qui ont dit non, mais nous, finalement, remplacez-moi et tout ça. Bah je suis là avec vous, les copains.
Quand même.
Voilà.
Solide sur ses appuis, j'y sais.
Kyrios qui allume Sinner. Je sens que ça va vous faire réagir, et notamment Marion Bartoli. Il lui veut beaucoup de mal. Il veut surtout l'affronter lors de l'Open d'Australie. Et puis 10h45, Marc Madiot va nous raconter sa rencontre avec Luis Enrique. C'était début décembre. Ça y est, ils sont main dans la main. Ils sont copains. Et il va nous raconter tout ça, mon cher Marc. On t'attend.
Je commence à m'inquiéter.
Pas de problème.
On a beaucoup de questions à te poser, évidemment, sur cette rencontre. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et ça a duré de nombreuses heures. On va débuter. Avant de débuter sur le Stade Toulousain cette nouvelle heure, nous allons prendre le pouls à Altabadia pour le slalom géant, la première manche, car Alexis Pinturault va bientôt s'élancer. Léna Marjac, bonjour Léna.
Bonjour JC, bonjour à tous. Oui, Alexis Pinturault, premier français à s'élancer pour cette première manche du géant. Il est avec le dossard 12, ce sera dans quelques instants. En tout, ils seront 7 français, mais évidemment celui qu'on va suivre avec intérêt, c'est bien Alexis qui participe à son troisième week-end de compétition après presque un an d'absence en raison d'une grave blessure au genou, et un genou qui est encore douloureux, c'est ce qu'il a annoncé avant ce week-end de compétition à Altabadia. Donc à voir ce que ça va donner sur une piste pentue, exigeante également. Et le géant qui est parti tout à l'heure à 17h pour l'instant, eh bien c'est le Croate Filip Zubzic qui est en tête avec un temps de référence d'une minute et 16 secondes, et juste derrière on retrouve un Norvégien, Stine Olsen, et Marco Odermatt est troisième provisoire de cette première manche, lui le suit qui a remporté la descente hier à Val Gardena. Donc voilà, on va suivre ces 7 Français et notamment le premier, donc Alexis Pinturault. Ce sera dans quelques instants, dossard numéro 12.
Eh bien, on va revenir te voir dans quelques minutes, chère Léna, pour cette première manche d'Alexis Pinturault. Dominique Marny a dit un jour, ce qui est bon dérange.
RMC, le bras de fer GG.
Rond, gorgé de sucre, le melon local depuis les années 50.
Cette équipe-là, elle a beaucoup d'appétit, elle a beaucoup envie de marquer son histoire et de marquer son passage au Stade Toulousain.
Le ballon qui ressort avec la passe de Boubacar, la santé en
c'est
lui, et le premier essai à Toulousain. Magnifique travail de Boubacar.
On est melonnier depuis le milieu du siècle dernier.
Pour l'instant, c'est pas mal, mais ils n'ont pas encore marqué l'histoire du club comme certaines générations.
Il est arrêté, c'est Dupont. C'est d'Antoine Dupont, le doublé.
Et place à l'ingrédient phare, notre melon bien mûr.
Et dans l'histoire du rugby.
C'est méchant.
Lui, il a
vous
plus
êtes
melon.
Méchant
en tout cas.
Avec mon Christophe.
Oui, on est méchant avec Christophe Toulousain et avec Christophe Cessieux.
Pourquoi vous avez sorti cet extrait? Il n'y a aucun rapport. C'est toi qui as fait ça aussi, Kylian?
Pas du tout. C'est notre producteur. Il m'a dit c'est juste pour mon plaisir. Voilà. 2019, 2021, 2023, 2024, depuis 5 ans, le Stade Toulousain rafle quasiment tout le temps le bouclier de Brennus. Une domination quasi sans partage qui font réfléchir depuis quelques semaines les présidents des clubs du top 14 avec peut-être une solution. La diminution de la masse salariale est dans le viseur. Entre les lignes, le Stade Toulousain, son président Didier Lacroix, évidemment, est vent debout contre cette mesure. Le Stade Toulousain dérange-t-il ? C'est notre question, notre bras de fer dans le coin droit. La team oui, représentée par Christophe Cessieux, Jérôme Pinault et Marion Bartoli. Dans le coin gauche, la team non. Il est seul et ça ne le dérange pas. De toute façon, il est pote avec Luis Enrique. C'est Marc Madio. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport de la cellule rugby, Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut messieurs. Salut Marion également.
Les présidents des clubs du top 14, c'est vrai, se sont réunis cette semaine sans Didier Lacroix pour mettre le sujet sur la table.
Oui, Didier Lacroix était excusé mardi à Gerland pour cette réunion des présidents de top 14 et de Pro D2 à la veille de l'Assemblée Générale Financière de la Ligue. Sous l'impulsion notamment du président du Racing 92, Jackie Lorenzetti, ce sujet de la diminution du plafond salarial était sur la table. Il est actuellement à 10,7 millions d'euros ce plafond. Le diminuer permettrait peut-être de réduire les coûts de fonctionnement que plusieurs clubs ne peuvent pas suivre actuellement et aussi de réduire les inégalités entre les clubs. Le président de la Fédération Française de Rugby, Florent Grill, en est d'ailleurs favorable à cette diminution. Finalement, statu quo, rien ne bouge. Les clubs ont besoin de temps pour s'organiser. Tous ou presque consomment actuellement le budget maximum. Ce sujet sera remis sur la table à partir de 2027. Ce qui est vraiment visé, ce sont les crédits internationaux. Pour être clair, le salary cap est fixé à 10,7 millions. Par club, mais tous les joueurs inscrits sur la liste premium de l'équipe de France, les 45 qui ont le plus joué l'année précédente, débloquent un crédit supplémentaire de 180 000 euros chacun par club. Le plafond salarial de Vannes, par exemple, qui n'a pas d'international, est de 10,7 millions d'euros, mais celui de Stade Toulousain, qui en a 11, va friser avec les 13 millions d'euros. C'est quasiment 2 millions supplémentaires pour le Stade Toulousain. Il y a donc des présidents qui veulent limiter ce crédit à 6 joueurs pour limiter la puissance du Stade Toulousain, qui, tu l'as dit, JC, a raflé 6 titres depuis 2019, dont 4 championnats. Le boss de Montpellier, Moued Altrade, parlait même d'atteinte au sens propre du sport dans le midi olympique pour définir cette ultra-domination du Stade Toulousain qui limite forcément l'intérêt de certains matchs. L'entraîneur Hugo Mola en a un petit peu marre des critiques sur la domination de son équipe.
On parle d'hégémonie, on parle de championnats parfois même un peu tronqués. Donc nous, on travaille pour évidemment être le moins imparfait possible, mais on est un peu dans l'œil de voilà du cyclone médiatique de certains présidents. Il y a un ton qui est particulier quand même sur nous en ce moment. On essaye d'être un peu hermétique à tout ça, mais il faut faire attention à ce que à trop nous taper sur le ventre ou nous frotter le dos, on s'endorme pas et qu'on perde l'éveil qui est le nôtre. Et chaque fois qu'on a été éveillé, on a été performant.
Difficile de blâmer le Stade Toulousain qui travaille très bien depuis le début des années 2010 et qui profite d'un système et qui est entré dans un cercle vertueux. Mais au vu des derniers résultats, 77% de victoires en 2024, l'effectif, les jeunes qui performent également, cette domination pourrait bien continuer un long moment. Logique donc que leurs adversaires tentent de trouver une parade sur et en dehors du terrain.
Exactement, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, cette domination du Stade Toulousain, vous l'aurez compris avec ce papier de Pierre Thévenet. Merci d'avoir été avec nous. Tu peux rester évidemment pour ce débat, pour nous apporter d'autres informations. Le Stade Toulousain dérange-t-il ? C'est le bras de fer des GG. Et il y a un camp qui se dégage, celui de Marc Madio. C'est non à 69%. Mais peut-être que si vous avez entendu maintenant, chers auditeurs, ces informations, vous allez peut-être changer votre avis. C'est oui à 31%. Vous pouvez aller voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Le camp du oui, Christophe Cessieux, vous commencez.
Je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas que le Stade Toulousain dérange effectivement le reste du top 14, le reste du rugby français. Moi, ça me semble aller tomber sous le sens. Moued Altrade, dont Pierre parlait il y a quelques instants, a déclaré la semaine dernière qu'en fait le Stade Toulousain, de par ses victoires, était en train de tuer le sens du sport. C'est-à-dire que avant même le début d'un match, tu savais que le Stade Toulousain allait gagner. Alors il exagère un peu parce que Toulouse a perdu à 2 reprises cette saison, mais il n'empêche, c'est vrai que dans les grandes rencontres, les grands moments, Toulouse gagne tout. Et c'est pas nouveau. Depuis 1985, date vraiment de la mise en place du Stade Toulousain d'aujourd'hui, ils ont décroché pas moins de 16 boucliers de Brennus, 6 Coupes d'Europe. C'est quasiment un bouclier tous les 2 ans. Alors évidemment, quelques autres clubs ont réussi de temps en temps.
Ça ne dérange pas de voir en foot le Real faire la même chose.
Non, oui, mais si, ça dérange. Évidemment que ça dérange les autres.
Non, mais la question, elle est pas est-ce que ça nous dérange, est-ce que ça dérange, notamment le monde du rugby.
Ça dérange,
oui,
mais oui. Nous, mais moi, ça, ça dérange les supporters des autres clubs. Tu crois que le PSG, ça leur fait plaisir de voir que le Real gagne chaque année? Tu crois que le Barça, ça leur fait plaisir de voir? Non, évidemment, l'hégémonie d'un club, ça dérange forcément.
Tout comme le Paris Saint-Germain dérange en football.
Il n'y a pas grand-chose à leur reprocher aux gens du Stade Toulousain. Ils sont les premiers en termes de formation. Ils sont les premiers en termes de finances. Ils ont su. C'est pas un club avec un mécène qui distribue de l'argent. Ils ont fédéré toutes les entreprises autour de Toulouse. Ils sont en plus très attractifs, c'est-à-dire que un joueur, plutôt que d'aller dans un club où on lui offrirait un plus gros salaire, il préfère aller à Toulouse parce qu'il sait qu'à Toulouse, il va gagner des titres et il va être sans doute appelé en équipe de France. Donc aujourd'hui, je vois pas comment tu peux lutter avec le Stade Toulousain. Et en plus, il y a cette histoire de crédit accordé aux internationaux qui font qu'aujourd'hui, Toulouse reçoit un million de plus, a droit à un million de plus de budget par an par rapport à La Rochelle ou par rapport à Bordeaux. Et tout ça, évidemment, fait que c'est un cercle vertueux et que ça ne va pas s'arranger pour tout de suite pour les autres formations. Donc, ça dérange. Donc, les autres présidents essayent de mettre des bâtons dans les roues au Stade Toulousain.
Mais c'est assez étonnant, quand même, de voir à quel point les présidents ne s'en cachent même plus. Et Hugo Bonin en conférence de presse, vous l'avez entendu, Hugo Bonin, il dit on sait qu'on est dans l'œil du cyclone. On sait qu'on est visé. Par une certaine presse, il a le droit de le penser.
Ça, je sais pas,
il a peut-être raison,
presse,
mais il le dit par des présidents.
Non, mais ça, c'est les. Alors après, il y a le côté toulousain un peu mégalo et surtout, voilà, tout le monde veut notre peau, tout le monde nous déteste. C'est bon, quoi. On adore cette équipe, on adore ce que fait ce club. Franchement, ils sont impeccables. Mais forcément, ils dérangent. L'hégémonie dérange. Marc, si tu gagnais tous les Tours de France depuis 15 ans, eh ben on t'en voudrait aussi. Le problème, c'est que vous gagnez rien. Vous laissez tout à Visma. Et à UAE, donc qu'est-ce que vous voulez faire?
Justement, on va y revenir là-dessus, mais on va évidemment, priorité au direct, retourner à Alta Badia pour la première manche du slalom géant d'Alexis Pinturo. Léna Barjac, c'est parti.
Oui, Alexis Pinturo dans le portillon de départ, 12, dossard numéro 12 sur le dos. Il participe à son troisième week-end de compétition après près d'un an d'absence en raison d'un genou douloureux encore aujourd'hui, après des ligaments croisés. Il est à Alta Badia pour son troisième géant donc de la saison. Il avait manqué celui d'ouverture à Zolden. Ensuite, il est allé chercher une belle 16e place à Beaver Creek aux États-Unis. Et la semaine, le week-end dernier, une 28e place à Val d'Isère. Mais les conditions étaient assez difficiles pour lui. Au premier temps intermédiaire, Alexis Pinturo a 2 dixièmes de retard sur le croate Filip Zubcic qui est en tête dans cette première manche du géant d'Alta Badia. Attention parce que là, il se fait un petit peu descendre de sa ligne, Alexis Pinturo. Mais c'est une piste exigeante qu'il connaît bien parce qu'il s'est imposé. C'était en 2020. À l'époque, il avait remporté donc ce géant d'Alta Badia. 6 dixièmes maintenant de retard pour Alexis Pinturo qui a fait quelques petites erreurs et forcément, il perd du temps, il perd également de la vitesse et on le sait avec ce genou douloureux sur une piste comme ça qui est exigeante, qui a des changements de direction aussi, eh bien il faut être fort physiquement, mais quand le genou est douloureux, c'est difficile. Et maintenant, il y a 1 seconde 14 de retard sur le croate qui est en tête dans cette première manche. Alexis Pinturo qui physiquement là a un petit peu de mal, c'est dur pour lui. On le sait, il revient d'une grave blessure, un genou qui est dur, qui fait mal. Et là, il va passer la ligne d'arrivée donc avec 1 seconde 39 de retard sur Filip Zubcic. Et donc, c'est une 10e place provisoire pour Alexis Pinturo. On le voit souffler et hocher la tête parce que je pense qu'il est un petit peu déçu de cette première manche. Il salue le public, mais 10e place provisoire donc pour Alexis Pinturo. Il y a encore 6 Français à passer pour ce géant à Alta Badia.
Merci beaucoup Léna Marjac, on espère le revoir en deuxième manche. Tu nous donneras évidemment la confirmation dans quelques instants après le passage des autres participants. Revenons à notre débat, le Stade Toulousain dérange-t-il? Pour toi c'est non, Marc Madiot, pourquoi?
Non, parce qu'ils font tout bien, il n'y a pas tant d'écart que ça au niveau des budgets. Ils travaillent bien, ils sont performants, ils sont dans la continuité. Donc, pour moi, ils ne peuvent pas déranger. Moi, je suis un spectateur assez éloigné du rugby. Quand je vois Toulouse, je sais qu'on a une belle chance d'avoir une équipe et un club français gagné.
Alors, on va aller sur ton sport, évidemment, parce que c'est un peu la même logique. Ouais. Et dans tous les sports, c'est un peu la même logique.
Sauf que nous, ce n'est pas les mêmes écarts financiers, ce n'est pas les mêmes.
Tu n'es pas dérangé par la domination du AE et de Visma, par exemple?
Je suis dérangé parce qu'eux, ils ont 50 millions et ils n'ont pas les mêmes.
Les mêmes charges.
Les mêmes charges de salaire que nous, on peut avoir.
Mais pour toi, il y a de vraies raisons, mais pour les présidents du club 14, il y a de vraies raisons à ce que
Pour moi, il n'y a pas de vraies raisons à ce qu'ils s'en prennent au Stade Toulousain. Ils n'ont qu'à juste copier le Stade Toulousain. Il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de grands écarts financiers, donc je vois pas pourquoi on contesterait la domination toulousaine. Ils travaillent bien, ils sont bien organisés, tant mieux pour eux. C'est plutôt un exemple pour les autres clubs français. Ah
mais
pour
ça,
moi.
C'est sûr, et tout le monde le reconnaît. Ah bah tout le monde aimerait arriver à faire aussi bien que Toulouse, mais.
Mais en plus, c'est un aveu de faiblesse de la part des autres présidents. Là, oui. J'ai dit oui, mais si tu commences à évoquer l'argument de dire oui, mais ils préfèrent aller jouer à Toulouse pour moins parce qu'avec eux ils gagnent, c'est que t'as pas bien fait ton taf, hein. Si t'arrives pas à attirer dans ton projet sportif les jeunes, les meilleurs joueurs chez toi sous prétexte qu'ils préfèrent aller gagner des titres, donc en conclusion toi t'en es pas capable. Là faut se poser des vraies questions, mais c'est pas, ils peuvent pas monter au créneau en disant faut changer les règles parce qu'ils veulent plus venir chez nous. C'est à eux d'inventer des choses et de créer des choses pour attirer les jeunes.
Pierre, une précision avant Marie.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Stade Toulousain a créé ce système depuis une quinzaine d'années, depuis le début des années 2010. Pour arriver au niveau du Stade Toulousain, Bordeaux essaie de le faire, La Rochelle essaie de le faire, ces deux clubs-là bossent très bien aussi.
La Rochelle très bien là-dessus.
Ça va prendre du temps pour arriver là. Et là, on est dans un système qui est tellement avantageux pour le Stade Toulousain, ses crédits internationaux, c'est un avantage énorme. Ils peuvent se permettre de dépenser 2 millions de plus en salaire que les autres. Ça leur permet de constituer quasiment une deuxième équipe qui leur permet de continuer à être les plus forts même quand les internationaux ne sont pas là. Donc c'est ça aussi qui provoque un petit peu la colère ou la jalousie peut-être des autres présidents qui se disent si on leur autorise à avoir 11, 12, 13 crédits pour leurs internationaux, nous, derrière, on ne va pas pouvoir rivaliser.
Ça veut dire que tu vas limiter la possibilité aux joueurs, aux sportifs, d'aller jouer dans le club de tes rêves. Et si on disparaît, comment tu fais? Tu dis toi, lui,
non, Mignon. Non, ils pourront toujours aller en bleu.
Le stade, enfin le Stade Toulousain ne recevra
leur crédit,
d'autorisation de crédit en plus.
Marion Bartoli.
En fait, effectivement, dans cette discussion qui est au départ vraiment initiée par Jackie Lorenzetti, qui lui, je trouve pour le coup. Vraiment, on pousse le bouchon un peu loin parce que il fait venir des joueurs comme Colisi qui coûte une fortune en termes de salaire pour le peu de matchs qu'il a joué et avec vraiment un rendement extrêmement faible. Et on a l'impression qu'il veut essayer effectivement de concurrencer le Stade Toulousain, mais sur le mauvais côté. C'est-à-dire qu'en essayant de taper sur le financier, en disant, bah, peut-être que si on tape sur le financier, ils seront moins performants sur le terrain. Alors qu'on voit très bien que le Stade Toulousain travaille extrêmement bien depuis extrêmement longtemps et que cette excellence-là, elle est pas venue du jour au lendemain. C'est parce que ça fait des années qu'il la cultive, et comme le disait très bien Christophe, justement les joueurs aujourd'hui préfèrent être moins payés peut-être au stade mais être assurés d'être aussi dans un environnement qui est précurseur et qui est aussi tourné vers la performance et donc d'aller gagner des titres et de progresser et de s'améliorer, et s'ils sont français d'être sélectionnés en équipe de France plutôt que d'aller chercher des salaires plus hauts. Et quand je vois quand même les présidents qui sont plutôt du côté aussi du Stade Toulousain, t'as quand même le Stade Français, t'as quand même l'UBB, t'as quand même La Rochelle, t'as quand même Toulon, donc je me dis quand même que les plus gros clubs aujourd'hui du top 14 sont quand même plutôt favorables à ce qu'effectivement on continue de travailler tel que c'est le cas aujourd'hui. Alors après, sur le nombre maximal de crédits internationaux autorisés, peut-être qu'on finisse par fixer une limite, je ne sais pas, à 6 ou 8, j'en sais rien, ça serait, il faudrait l'étudier. Bon, à la limite,
mais,
éventuellement.
Mais à ce moment-là,
et de dire uniquement que le salary cap fait tout et qu'entre guillemets, parce que il y a un salary cap qui est trop élevé, du coup, c'est grâce à ça que le Stade Toulousain gagne tout. Je trouve que le raccourci est tellement grotesque et énorme que franchement, j'ai du mal à comprendre comment les auditeurs ont voté dans ce sens-là.
Sur ce détail-là d'évolution de la prime à l'international, ça, c'est pas parce qu'ils ont plus la prime qu'ils vont pas avoir les meilleurs joueurs. Ça va au-delà de ça. Les joueurs voudront toujours venir au Stade.
La Croix dit que si ils ont pas de au-delà de 6, s'il y a plus de droit au crédit, il interdira aux autres d'aller jouer en équipe de France. Donc tu vas affaiblir l'équipe de France par ce système.
Mais,
et il faut faire attention. Il faut faire très attention à pas.
Le Stade Toulousain fait quelque chose depuis des années. On le voit aujourd'hui et ça paye. C'est un club qui travaille et qui a oublié, surtout pas oublié d'où il venait et qui travaille avec ses anciens. À chaque niveau d'équipe,
tous les
chez les jeunes,
ont été les stars de
ce sont des anciens du club. La Rochelle est en train de faire ça, il y a moins d'histoire à La Rochelle, et il y a un centre d'entraînement où tout le monde se croise. Voilà un club qui, bien structuré, avec un plan et un vrai projet.
C'est un modèle et un exemple de ce que devrait être un club en France, le Stade Toulousain. Je veux dire, il n'y a pas d'équivalent dans tous les autres.
Alors finalement, vous êtes d'accord avec moi?
C'est clair.
Mais on dit que ça dérange dans le milieu.
Ça nous dérange dans le milieu.
Ça dérange les adversaires. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je veux dire, frère, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de suspense quand il y a un match. La dernière finale du championnat qui est gagnée 59-3 par le Stade Toulousain. Oui, ça m'a dérangé parce que si tu veux, il n'y a pas eu de match. Mais autrement, je suis admiratif du travail.
mais tu en veux aussi à l'UBB. T'en veux pas, t'en veux aussi à l'UBB
qui s'est incapable de.
Oui, mais on est admiratif et franchement, c'est un exemple.
Il y a Julien qui nous appelle au 32-16, certainement supporter du Stade Toulousain. Salut Julien.
Bonjour les grandes gueules, comment vous allez?
Ben on va très bien, merci. Bonjour. D'être avec nous, mon cher Julien. Alors, le Stade Toulousain dérange-t-il? Très bien.
Pour le coup, je vais être neutre dans le débat. Juste un petit coucou à Marc Madiot que j'ai croisé cet été à Nuit-Saint-Georges sur l'étape du contre-la-montre.
Monsieur a bien choisi son nom.
Dans une cave.
Je lui avais laissé un petit flacon de blanc. J'espère qu'il l'a bien apprécié. J'espère que.
Il l'a bu en bagnole,
évidemment.
Non. C'est évidemment une blague. Hein. Vas-y,
oui,
Julien.
Le soir au coucher.
Concernant le Stade Toulousain, moi, il me régale. C'est une équipe qui est, franchement, c'est pour moi. C'est l'équipe, c'est le groupe le plus fort que Toulouse a eu dans son histoire. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils sont complets partout. Ils m'ont régalé à avoir joué Dupont, etc. Ramos, les internationaux. Et je pense que, comme dit Marion, l'excuse du salary cap et puis de l'argent donné par la Fédé, c'est un peu facile parce que quand on voit le nombre de joueurs qui ont été formés au Stade Toulousain, c'est un travail sur du long terme. Moi, je comparais le Stade Toulousain au Real Madrid, en fait, au football, si vous voulez. Bon, avec des moyens qui sont pas comparables évidemment parce qu'on parle de rugby, mais pour moi c'est un plaisir de les voir jouer.
Très bien, mais ça te gêne pas que les autres clubs comme ça commencent à grogner un petit peu parce qu'il y a cette domination?
Ils grognent parce qu'ils sont jaloux. J'y sais. Après, tu sais, les présidents, Jackie Lorenzetti, déjà s'il pouvait faire jouer son équipe dans sa salle tous les week-ends au lieu d'aller jouer à Créteil ou à Auxerre. Ce serait pas mal aussi, donc faut déjà regarder dans son club ce qui se passe avant de critiquer les autres. Après, c'est mon point de vue, mais tu vois, pourtant, moi, je suis supporter clermontois. On mange notre pain noir depuis quelques années, mais...
Ça va mieux, là.
Oui, ça va un peu mieux grâce à Christophe Furios, mais...
Ah, tu sais que c'était une de nos GG, hein, Christophe Furios.
Ben, enfin,
hier, la fin de match de Clermont, je suis désolé, mais j'ai scandalisé par ce que vous avez fait hier.
Ah bon?
Contre La Rochelle. Ouais, tu joues même pas le dernier ballon. Pour garder le point du bonus défensif.
Pour un point de bonus à La Rochelle cette année, ça va coûter cher.
Il y avait un truc à faire. Enfin bref.
Oui, peut-être.
Ok, c'est votre débat, Clermontois, que vous aurez pendant la pub, si vous voulez bien. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous au 32-16. C'était un plaisir et passe de bonnes fêtes, mon cher Julien, et merci de ta fidélité. Pierre Thévenet, merci beaucoup. Travail continue, hein, parce que sur RMC, le rugby sera là durant les fêtes. Hein.
Bien sûr, un énorme Boxing Day le week-end prochain avec du rugby de partout.
Lui, il prend pas de vacances, tu vois.
On compte sur
toi. Il vient d'arriver, il vient de signer son contrat.
Bravo les copains du rugby, merci beaucoup Pierre Thévenet. Sachez que ça a évolué dans notre débat. Nous sommes partis à 31%. Oui, le Stade Toulousain dérange. 69% non. Nous sommes désormais à 33% oui, 67% non. Voilà.
Tu me laissais 10 minutes de plus, on était à 50-50.
Non, mais j'étais seul.
Non, mais en fait, les gens n'avaient pas bien compris la question. C'est pas nous dérange nous, mais dérange le monde de l'humanité.
Mais oui.
Vous avez entendu Christophe Furios? On va le réécouter. Christophe.
Bonjour.
Voilà, merci.
Le poète.
Qui adorait faire le zapping.
Très grand poète.
Bref, j'ai bien compris. La faute est pour moi. J'ai mal posé le débat, mais j'ai trouvé que c'était excellent quand même. 10h30, on se retrouve dans quelques instants avec. Là, je vais bien poser une question. Avec Nick Kyrgios qui s'en prend à Yannick Sinner, le numéro 1 mondial. À tout de suite sur AMC. Je sais que ça va vous faire réagir.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité avec ce matin. Marc Madiot, Jérôme Pinault, Marion Bartoli, Christophe Cessieux, les grandes gueules du sport seront présentes durant toutes les fêtes de Noël, le samedi, le dimanche de 9h à midi. On vous lâche pas, chers auditeurs. Chassez-le, sachez-le. Difficile en ce moment.
Cachez-le.
Je vais retirer la botte de beurre que j'ai dans la bouche en hommage à Maïté. Et je reviens.
Oh, mes poulettes.
Dans 10 minutes, sachez que Marc Madiot va tout nous dire sur sa rencontre avec Luis Enrique. Il l'a rencontré début décembre. Et il a changé d'avis sur l'entraîneur parisien. Voilà, tout arrive. Merci Marc d'être avec nous. Et tu vas tout nous dire. On a beaucoup de questions à te poser. Mais tout de suite, on va parler tennis. Enfin, tennis ou insulte, on ne sait pas trop. Nick Kyrgios, c'est un joueur à part, vous le savez, sur le terrain, mais aussi beaucoup et surtout en dehors. Le fantasque australien fera son grand retour officiel sur les courts fin décembre lors du tournoi de Brisbane, après 2 ans sans jouer pour cause de blessure. Et Kyrgios prépare son retour et il prévient un joueur qu'il a dans le viseur depuis son affaire de dopage, le numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Son rêve, régler ça sur le court, face à lui, lors de l'Open d'Australie. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Je veux jouer contre Sinner à l'Open d'Australie. Je n'attends que ça. Et si je le joue, je ferai en sorte que chaque personne dans le public soit contre lui. J'essaierai de déclencher une émeute, un soulèvement contre lui. J'abandonnerai tout respect. Je ferai n'importe quoi pour gagner.
Alors, vous avez entendu notre ami Nick Kyrgios. Est-ce que vous aimez ou vous détestez cette déclaration, Christophe Cessieux?
Je suis partagé. Je suis assez partagé. Sur le principe, je trouve ça nul, mais en même temps,
Ok, partagé. Marc Madiot.
Ah, moi, je trouve plutôt oui.
Plutôt oui, tu aimes. Non, mais juste. Oui, c'est juste.
Oui, oui, j'ai envie de dire oui.
Marion Bartoli.
Déteste.
Elle déteste. Ah. Elle a des choses à nous dire, Marion. Jérôme Pinault.
J'adore.
Tu adores, ok, parfait. Oh, vas-y, Marion, commence.
Non, mais alors, je suis pas surprise parce que de toute façon, Kyrgios ne vit que de ça, ne vit que de déclarations plus provocatrices les unes que les autres. Je vous rappelle quand même que c'était un joueur qui a été capable de dire des horreurs absolues à Stan Wawrinka, qui est un des joueurs les plus polis, les plus aimés, les plus respectés sur un court tennis lors d'un Master 1000 en plein match. On sait même pas ce qui lui passe par la tête. Je vais même pas vous dire ce qu'il a dit. Ceux qui suivent le tennis le savent. Ça ne me surprend pas qu'il soit là-dedans. Maintenant, ces déclarations provocatrices à foison, au bout d'un moment, il y en a quand même ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Donc, de toute façon, Sinner, bien évidemment, il ne va pas répondre. S'il le joue sur le terrain, alors, bien évidemment, ça reste un match de tennis, il faut le jouer. On a quand même un joueur qui est numéro un mondial, qui vient de gagner deux grands chelems, c'est qu'il y a une machine de guerre sur un court qui est quasiment hein, devenu imbattable, qui va jouer contre Nick Kyrgios, qui a plus joué un match en compétition officielle depuis 12 jours.
Non, mais là, 2023. On n'a pas dit que Kyrgios allait le battre.
Donc, moi, je veux bien. Non, mais moi, je veux bien lui dire, tu peux lui faire ce qu'il veut. Il peut même fendre le court en deux s'il veut et lui faire tomber la foudre. À un moment donné, il faut quand même avoir les réalités du court.
Tu parles de réalité du court, mais la place de Sinner est-elle sur le court?
Ça c'est l'AMA et le tribunal qui va en décider. C'est pas Kyrgios, mais bien sûr que non. Sa déclaration, elle vient de là parce que de toute façon, il est dans la provocation absolue et qu'il fallait le trouver un autre sujet pour être provocateur. Mais oui.
Il est dedans.
Et ça me surprend
pas. Et moi, je trouve qu'il a raison parce que
il
dit aussi peut-être à sa façon, et c'est peut-être mal dit, ce que beaucoup de petits copains du tennis pensent, mais n'oseraient jamais dire parce qu'on est dans un monde un peu où il faut pas, surtout pas dire que le mec, à mon avis, il nous l'a fait à l'envers, mais il va jouer quand même et voir tout le monde. Moi, j'aurais aimé qu'un jour, dans mes années sur le vélo, il y a un mec qui dise bah, Armstrong, j'aimerais qu'il revienne jamais et que s'il revient, tout le peloton, on va lui mettre la misère, comme ça, on va lui faire fermer sa tronche. Moi, j'aurais aimé. Alors, c'est peut-être mal dit, mais au moins, il pose sur la table ce qu'il faut pour dire bah, il y en a, non, j'ai pas envie de jouer contre ce type, il a rien à faire là, pas plus que moi. Il est très provocateur, il a fait des erreurs de communication, c'est un peu trop peut-être, Marion, mais sur ce sujet-là, bah, peut-être que c'est la façon.
Tu ne peux pas sur quelqu'un. On ne peut pas.
Il n'a pas été condamné, mais il a été positif.
Il est quand même positif. Ça a été jugé.
Écoutez, Marion.
Ça a été jugé, s'il vous plaît. On est à 0.00000. Il y a 9-0.
Comme Contador. On sait très bien comment c'est arrivé, 0-0-0.
Vous ne pouvez pas juger quelqu'un tant qu'il n'y a pas un tribunal, une justice qui
a été rendue. Il a été contrôlé positif. T'es quand même d'accord avec ça? Il est positif.
Tu as été d'accord qu'il y a eu un tribunal qui a rendu derrière un verdict.
Gentiment, le verdict, tribunal.
On le connaît. Oui, on le connaît. Ensuite, une agence antidopage a fait appel. On verra si Yannick Sinner est dans la capacité, on lui donne l'autorisation de jouer ou pas au tennis. Mais dans tous les cas, qu'on le dise à un moment donné, effectivement, je suis pas d'accord avec ce que le tribunal a pris comme décision, il va faire appel, etc. Et s'il doit être suspendu, il doit être suspendu et pas jouer. Je suis d'accord avec vous là-dessus. On a fait ces débats précédemment. Mais si on lui donne l'autorisation de jouer, qu'il y a des instances indépendantes qui prennent cette décision, tu ne peux pas dire à quelqu'un, je vais lui déclarer la guerre, ça va, je vais créer une émeute. Il y a quand même un minimum de respect dans le tennis. Et je suis désolée, le rôle de l'ATP.
Il y a une règle, je pense que je vais vous rappeler. Le joueur en question.
Vas-y,
y a une règle que je vais vous, rappeler qu'avec un code de conduite qui est établi par le règlement de l'ATP, qui est l'article 8.03, la conduite contraire à l'intégrité du jeu comprend sans s'y limiter les commentaires adressés aux médias qui attaquent ou dénigrent déraisonnablement une personne ou un groupe, un sponsor, un tournoi, un joueur ou un membre de l'ATP.
Oui, c'est-à-dire que dans le tennis, il est plus grave de dénigrer un adversaire que de se doper. En gros, c'est un peu ça.
Exactement. Hein.
Mais vous faites des raccourcis.
Non, je veux bien que vous soyez
dans la provocation en permanence, il n'y a aucun souci là-dessus. Le tennis, là, on l'a vu avec Swiatek et son contrôle à la mélatonine, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Non, moi, j'étais contrôlé 50 fois par année, je sais très bien comment les contrôles fonctionnent et comment ce système de l'antidopage fonctionne. J'ai baigné là-dedans pendant 15 ans.
Nous aussi.
Mais, à un moment donné, si un joueur est autorisé à jouer, encore une fois, on ne peut pas en permanence lui faire un procès d'intention. C'est ça que je veux vous dire.
Mais parce qu'il
y a des instances, il y a une justice. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de justice. Chacun sait sa propre justice.
Moi, j'ai eu la malchance de tomber dans une époque où il y a eu des coureurs qui sont tombés dans ce qu'on appelait l'affaire Puerto. Ces gars-là n'ont jamais été suspendus. Moi, j'ai couru avec Valverde, avec Contador et ses 0-0. Et j'ai vu tous les autres coureurs du peloton, à part quelques-uns, dont nous les Français, leur taper sur le dos et comment ça va. J'en avais envie de vomir de voir tous ces gens-là leur faire des ronds de flanc parce que soi-disant champions, avec la suspicion qu'il y avait sur eux, pour moi, ils n'avaient rien à faire là. Mais comme nous les Français, on était dégueulards, on n'avait surtout rien le droit de dire, et comme on n'était pas bon puisqu'on était dominé par ces gens-là, notamment l'affaire Puerto, et on ne savait pas s'entraîner, donc on l'a fermé. Moi, je suis désolé, c'est peut-être mal dit, mais ils ont tout à fait le droit d'exprimer le fait qu'ils ne veulent plus voir un mec qui a été contrôlé positif jouer face à eux.
Ça très bien, mais c'est ce que veut dire le Kyrgios. En gros, je schématise, mais il a envie de se faire quelqu'un qui a été confondu pour dopage.
Parce qu'il a mis une petite pique à Swiatek aussi après son contrôle. Hein,
il s'attaque évidemment à tous ceux qui.
Non mais c'est que ça. Il est dans son droit.
Chevalier blanc du tennis.
Il est sorti avec Anna Kalinskaya, qui est actuellement la copine de Sinner. Le gars, il a dit des commentaires qui sont absolument abjects. Il ne fait que ça. Ce n'est que de la provocation. C'est son domaine. C'est grâce à ça qu'il a ses sponsors. C'est grâce à ça qu'on le paye. C'est pour ça que les télés l'emploient, parce qu'il fait du buzz. OK, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. De toute façon, je savais très bien qu'il allait faire ce genre de déclaration. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans un sport sans aucune loi. À partir du moment où je serai la première, si demain, le tribunal du sport, le TAS, déclare Sinner dopé et qu'il est suspendu 6 mois, je serai la première à vous dire Sinner ne pouvait pas jouer, il ne doit pas jouer. Je serai la première à vous le dire. Franchement, il n'y a aucune protection. Ce que je dis en revanche, c'est que si le tribunal estime qu'effectivement, au vu des règles, etc., et tout le règlement qui fait 240 pages, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, mais qu'il a le droit de jouer, laissez-le jouer, c'est tout ce que je vous demande. C'est tout.
Point. Ok, Marc, juste avant de te donner la parole, juste parce que Sinner, évidemment, n'a pas répondu, mais il y a une lettre écrite par les fans de l'italien, une lettre adressée à l'ATP qui dit « Le rôle du sport et de ceux qui le représentent est de maintenir les valeurs de respect et de loyauté. Nous sommes outragés et inquiets des propos malveillants exprimés par Nick Kyrgios. À partir de maintenant et quelles que soient vos futures actions, cela façonnera l'identité de votre institution. » Voilà, les fans de Sinner qui provoquent comme ça aussi un petit peu l'ATP. Marc Madio.
Moi, je reste basique. Le joueur est positif, il est toujours en compétition. Déjà, la moindre chose, quand on est positif avant tout jugement, on devrait se mettre sur le banc de touche.
Oui, mais là, c'est l'affaire de dopage. On en a déjà assez parlé.
Oui, mais le fond du truc, c'est quand même l'affaire de dopage.
C'est le fond du truc. Mais que tu vois un coureur, un tennisman comme ça, s'en prendre justement.
Moi, je le trouve plutôt courageux, le garçon en question. Je ne connais pas. Hein. J'ai pas d'atome crochu par rapport à lui. Mais dans son attitude par rapport au contrôle positif de Sinner, qui est le meilleur joueur du monde aujourd'hui, je trouve qu'il est courageux.
Sachez que Nicolas Mahut a déclaré « Je n'aime pas cette déclaration-là ». Il a le droit d'avoir son avis sur le contrôle positif de Sinner. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais envenimer la situation comme ça, je ne suis pas d'accord. Et Max Villander a déclaré également « Il serait intéressant de voir si Yannick Sinner parviendrait à tenir bon et garder son sang-froid s'il affrontait quelqu'un comme Nick Kyrgios ». Christophe, tu avais du mal à te positionner. Tu as entendu les deux arguments.
Non, parce que si tu veux, sur la forme, je suis un peu... Je trouve ça un peu fort, quoi. Kyrgios, qui se veut le chevalier blanc. Effectivement, c'est son fonds de commerce, comme le disait Marion. Et il profite de chaque occasion pour l'ouvrir. Et c'est comme ça qu'il a ses sponsors. C'est comme ça qu'il existe encore dans le tennis. Parce que c'est pas par ses résultats qu'il existe dans le tennis. Donc, si tu veux, le garçon m'agace. Mais le fond du problème, je trouve qu'il révèle quand même des choses. Et que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens dans le tennis qui sont d'accord avec lui, mais qui ne vont jamais oser dire ce qu'il dit, parce que c'est un monde où tu dois pas faire trop de vagues. Mais comme dans n'importe quelle discipline, en vélo aussi, hein, en vélo, lorsque Armstrong gagnait, personne n'osait ouvrir sa gueule parce que tu avais peur de prendre des coups en retour. Donc je trouve que la forme n'est pas bonne, mais le fond finalement me dérange pas. Voilà pourquoi j'étais partagé.
Parfait. Eh bien, c'était parfaitement expliqué. Marion, très rapidement.
20 secondes. Le fond du problème, c'est que l'ATP et la WTA ont voulu créer une entité supplémentaire qui s'appelle ITIA, et personne n'y comprend rien.
Et auparavant, lorsque je jouais, ça n'existait pas.
Exactement. Et ça, je suis complètement d'accord avec vous. Et pour ça doit être enlevé. Ça, je suis complètement d'accord avec vous.
Ok, c'était passionnant de vous écouter sur ce débat, cher GG. Il est 10h44. On se retrouve dans quelques instants. Pour un moment très important, Marc Madio, notre GG, a passé quelques heures privilégiées avec Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui fait tant parler. Alors, comment est-il dans la vie? Eh bien, on va tout savoir avec Marc Madio dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47, toujours avec Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Marc Madio, Jérôme Pinault à partir de 11h. Justement, les copains du vélo, on va parler de votre sport. Les coureurs, la protection des coureurs. Une petite pièce a été remise et nécessaire dans la machine de la part du directeur du Tour de France cette semaine, Christian Prudhomme. Est-ce qu'on avance dans cette protection des coureurs ou est-ce qu'on stagne, sachant que nous avons été marqués par de lourdes chutes, parfois mortelles, cette année. Donc c'est important de s'emparer du dossier. Le président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot, sera notre invité, lui qui vient d'être réélu cette semaine. Mais tout de suite, c'est la rencontre, the rencontre, comme disent les Américains, la rencontre entre Marc Madio et Luis Enrique. C'était début décembre.
Il y a vraiment un lien très très fort entre Paris, le Parc des Princes et le cyclisme.
Nos couleurs se rejoignent et ça ne doit rien au hasard. Les couleurs de Paris étant le bleu et le rouge.
Je suis très content à Paris.
Et les couleurs de la Groupama FDJ et son équipe, c'est le bleu, le blanc et le rouge. Donc c'est ce qui fait qu'on est en capacité de se retrouver aujourd'hui autour d'un point fort entre nous. La bicyclette.
I love cycling. Paris-Roubaix, Paris-Bianche, Tour. But Tour de France, I like, of course, la Vuelta, le Giro. I prefer the classic.
Je parle, tu vas bien, et j'accélère. Il va appuyer,
voilà, c'est parti. Marc Madio, 65, but you are okay. You are perfect.
Ah, ça y est, ils sont copains comme cochons. Marc Madio, Luis Enrique,
ils se sont rencontrés
début décembre. Donc, les deux managers ont pu partager leur monde durant quelques heures et échanger autour de leur sport. D'ailleurs, il existe une vidéo de 17 minutes. On vous voit, hein, Marc, au Parc des Princes, sur la pelouse, puis dans le vestiaire. Ensuite, c'est au tour de Luis Enrique de partager ton univers et de monter dans la voiture de la Groupama FDJ et de suivre deux de tes coureurs. Raconte-nous justement ce moment avec un entraîneur qui fait tant parler en France.
Bah, ça a été un moment magique. J'ai rencontré quelqu'un de différent de celui que l'on perçoit à travers les interviews à la télé, notamment avec la presse. J'ai découvert quelqu'un de sympa, d'accueillant, qui n'était pas là en service commandé, qui avait envie d'échanger sur le sport, tout simplement. Je lui ai fait découvrir qu'il y avait une équipe de Laval en deuxième division et il savait pas. Alors, mon souhait le plus grand maintenant, c'est que le PSG se qualifie et qu'on se retrouve en Coupe de France à un moment ou un autre. Ce serait génial. Et puis, il a eu la gentillesse de nous accueillir au Parc des Princes, de nous montrer le nouveau centre d'entraînement, de nous le faire visiter, de nous prendre en aparté dans son bureau, dans son intimité, de nous préparer le café et tout. Enfin, vraiment un accueil formidable.
Ça devait durer pas forcément très longtemps et finalement ça s'est prolongé une demi-journée.
Ça a duré une demi-journée quasiment, oui.
Luis Enrique, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans cette émission, on voit son côté provocateur face à la presse et on ne doute pas en plus un seul instant que dans la vraie vie, j'ai envie de dire, il est forcément différent. En quoi est-il différent ?
Il est sympa, il faisait l'effort de parler en français, il est accueillant et bienveillant. Je l'ai trouvé très bienveillant, il nous a bien accueillis. Le monde du foot, c'est un monde.
Et tu lui as parlé tactique ou non? Ou il a pas voulu parler tactique?
Non, on n'a pas parlé tactique. On a parlé un peu des joueurs, on a parlé vélo. On a pas. Non, c'était un moment sympa. Voilà, je dirais que c'était un moment sympa. Il était heureux de nous accueillir. On était heureux d'être là. Et j'ai découvert un personnage attachant.
Mais ouais. Tu l'as senti. Alors, on sait que c'est un passionné de vélo, mais passionné plus. Hein.
Plus, il connaît très bien les coureurs.
Il pratique aussi.
Il fait du vélo et il est affûté. Hein.
Ouais,
Là, il était un peu malade. C'est pour la raison pour laquelle il n'a pas roulé. Mais il est affûté, le coco. Ouais,
il arrive souvent au centre d'entraînement à vélo, d'ailleurs.
Ouais, et il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'il est à bloc dans ses matchs. Quoi. Il est à bloc autour de son équipe et dans la vie de son équipe. Quand on entre dans son bureau,
t'es allé voir un match au parc à ses côtés?
Non, ça, pas à ses côtés. Moi, je suis allé voir. J'étais au match contre Toulouse. J'étais en tribune, mais on voit que c'est quelqu'un qui vit les matchs. Ça, c'est son rôle d'entraîneur, mais c'est aussi quelqu'un qui vit H24 pour son équipe. Ça se sent.
Tu t'es retrouvé des accointances avec lui dans sa, dans votre façon de manager
équipe. Non, franchement, j'ai passé un bon moment et c'est quelqu'un que j'aurais plaisir à revoir.
C'est fabuleux d'entendre Marc parler comme ça. Parce que en plus, on sait que Luis Enrique aime le vélo. Donc, je pense que il devait aussi forcément être lui, parce que tout Luis Enrique qu'il est, nous on le met là-haut parce que joueur de foot. Mais le niveau qu'il atteint dans son métier, c'est le même que toi finalement. C'est manager d'une grande équipe. Et il est, t'as gagné des très grandes courses en tant que coureur et t'as fait gagner des courses à tes coureurs en tant que manager. Oui. Donc au final. Il n'y a que au niveau du côté populaire du football qui fait. Et je pense que moi, ça me fait beaucoup rire sourire de devoir parler de lui parce que c'est génial en fait. Mais c'est un mec comme toi en fait, c'est le même. Vous êtes les mêmes, passionnés, impliqués à 200% dans votre quotidien, dans votre métier, dans votre sport qui n'en est pas un parce que c'est une passion. Ouais. Et je pense qu'il a été aussi. Il a dû passer quelques coups de fil en Espagne à la famille en disant j'ai passé la journée avec Marc Madio, c'est sûr. Mais ce qui est drôle, c'est que ce lien là, on en a longtemps peu parlé. Il existe beaucoup de sportifs, de cyclistes, passionnés de football, mais c'est deux mondes qui s'ignorent. Alors que moi, pour avoir beaucoup de potes dans ce milieu, il y a beaucoup qui aiment le vélo, et il y a un vrai lien. C'est le sport de très haut niveau, la passion.
Est-ce que parfois, évidemment, j'ai regardé la vidéo, ça peut être parfois un peu superficiel parce qu'il y a du monde autour et tout ça. Est-ce que vous avez eu un moment d'échange entre managers, c'est-à-dire que vous devez faire des discours, toi tu dois faire des discours à tes coureurs, lui il a des causeries, t'en as aussi. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes donné des billes, des tips?
Pas des billes, mais on a comparé des moments et des événements. Moi, il y a un truc qui m'a, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est le banc de touche. Quand on est spectateur, qu'on est dans les tribunes, on a une vue assez large suivant où on est placé du terrain. Et en fait, quand on est assis sur le banc de touche, à un moment, on est assis tous les deux sur le banc de touche, le truc que je me suis rendu compte en premier, c'est « mais il voit rien en fait ». Je dis « mais tu vois rien d'ici ?» Ben, il dit « non, on voit rien ». Et il a quelqu'un qui est avec un talkie-walkie un peu un peu plus haut, qui lui donne des informations. Et c'est la raison pour laquelle ils sont souvent sur la ligne de touche. Et ça, c'est assez marquant. Et l'autre truc qui m'a amusé,
comme toi en voiture.
Comme nous en voiture, on croit qu'on voit, mais on voit rien.
Bien sûr.
Et en fait, au nouveau centre d'entraînement, il a un petit élévateur. Il monte sur cet élévateur, il se met à la hauteur qu'il veut. Il peut monter jusqu'à 5 mètres pour regarder ce qui se passe dans la disposition de ses joueurs sur le terrain et les interpeller.
Il en profite pour tailler la haie.
Ce qui m'a impressionné, il y avait 6 tondeuses qui tondaient en même temps, un demi-centimètre de pelouse sur le terrain. Et puis l'autre truc qui m'a marqué, c'est le vestiaire du centre d'entraînement. Dans le vestiaire, pour la causerie, le vestiaire est en cercle. Et en fait, il est insonorisé de façon à ce que quand le coach parle, il n'a pas besoin d'un micro. Le simple fait qu'il est au centre, le son est renvoyé de la même façon dans tout le vestiaire. Ça, j'ai trouvé ça, le souci du détail, assez impressionnant. C'est un centre magnifique. Ils ont un équipement, c'est top niveau, quoi. C'est leur rêve absolu. Moi, je voudrais bien une petite cabane au fond du jardin pour prendre mes vélos là-bas. Hein. C'est vraiment top niveau. Et moi, ce que j'ai senti vraiment chez lui, c'est la passion, quoi. On sent qu'il vit pour son équipe, pour ses joueurs. Je suis allé dans son bureau et il y a tout un tableau. Alors, ça m'a fait penser un peu à ce que nous, on a notre service course. Et nous, c'est sur du papier, au mur, avec les courses qui courent, qui participent à tel ou tel événement. Et lui, il a un truc, magnétisée sur des magnètes qu'on met sur le tableau avec tous ces matchs en préparation, tout son programme de compétition, les jours de relâche, etc. Et en fait, on s'aperçoit que quel que soit le sport, la pensée et la logique d'équipe, quel que soit le sport, ça se retrouve sur les murs d'un bureau.
Tu l'as senti méticuleux ?
Ouais, je l'ai senti impliqué, méticuleux sur ce qu'il fait, et surtout passionné par ce qu'il fait, ça c'est une évidence.
Est-ce que vous avez parlé de la presse un peu ?
Pas spécialement de la presse, on a parlé de quelques joueurs, je lui ai demandé son avis sur quelques joueurs, bien évidemment, il m'en a parlé. C'est assez. Il y a parfois des contrastes entre ce que l'on perçoit et voit des joueurs sur le terrain et la pensée que peut avoir l'entraîneur et la réalité du moment que peut avoir l'entraîneur avec les joueurs.
Je te mets pas dans les cordes parce que je suis obligé de faire mon métier de journaliste, même si on est copains, mon cher Marc Madiot. Est-ce que tu as un truc à nous donner là, un truc qu'il a dit sur un joueur que tu ne pensais pas?
Un truc qui paraît bizarre vu de loin, que je peux vous donner, c'est que en fait, y a des joueurs qui sont plus sympas dans l'intimité que l'image qu'il dégage. Par exemple, Neymar. Exactement. Il m'a dit Neymar est un garçon très sympathique. Et quand on voit le parcours de Neymar ou qu'on s'intéresse juste aux interviews ou aux attitudes que pouvait avoir Neymar, on pouvait le prendre pour un gros branleur. Et en fait, il m'a dit tout le contraire de lui.
Ouais, je crois que Marion aussi qu'il a rencontré.
Ah oui, c'est vrai.
Tu en Arabie Saoudite, là pour Bartoli Time, c'est aussi le regard que tu nous donnais, que tu nous livrais.
C'est un peu la caste, Marion, des gens qui ont la Légion d'honneur. Ça rencontre des.
Ah bah
des
ça
gens,
rencontre plus Cédric.
Moi j'ai une médaille de bronze au championnat départemental. Ouais. Je vais rencontrer mon papa cet après-midi.
On se rencontre trop. Tranquille.
Exactement.
Et tu nous raconteras ta rencontre avec ton papa dans une prochaine émission.
Avec grand plaisir.
Je peux vous dire effectivement que Neymar est adorable.
Il jongle moins bien.
Marc, du coup maintenant il va plus pouvoir. Il y a Luis Enrique dans les débats. Je vous le dis, il est conquis, il est amoureux. Enfin bref, on l'a perdu quoi.
Il a trouvé son double dans le football.
Ok les copains, je vous prends la main. Merci Marc pour ce moment avec Luis Enrique et de nous l'avoir raconté dans les GG du sport. On revient dans quelques instants pour vous parler de cyclisme, la sécurité des coureurs, la protection des coureurs. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on stagne? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.